Donc le temps que les arrivants s'installent, je me permets de vous rappeler donc brièvement, désolé pour ceux qui étaient déjà là tout à l'heure, dont nous allons entendre une communication partagée en deux. Mes collègues se sont partagés le travail autour de la notion d'humour. Donc à ma droite immédiate, elle est à la droite du père. Vous avez donc Florence Lecas-Mercier, qui est maître de conférence à l'Université de Paris-Sorbonne. Je vous disais qu'elle avait donc commencé sa carrière de chercheur sur Genet, une thèse sur Genet, puis elle s'est ensuite diversifiée. Et elle avait participé au colloque Echnoz de 2013 à la Sorbonne avec une communication mémorable sur les grandes blondes. Elle a même recommencé sur les grandes blondes avec un ouvrage qui m'était plus spécialement destiné et qui m'émeut encore, moi qui suis pas séducteur pour deux sous, n'est-ce pas Stéphane? Donc ensuite Christelle, qui est éminente spécialiste de Pérec, elle est professeure à l'Université de Paris-Sorbonne. Elle a l'apparence d'une collégienne, mais méfiez-vous, c'est pas vrai. Hein. Elle est bien professeure à la Sorbonne. Et donc spécialiste de Pérec, elle a multiplié des travaux sur le roman contemporain, sur l'effet de style aussi. Elle a fait un très bon petit livre sur la rhétorique, notamment. Et elle a fait sa thèse d'habilitation de doctorat pour professeur sur le genre romanesque, sur la rhétorique du roman. C'est un livre très original, je vous engage vivement à le lire. C'est un livre qui se lit facilement, publié chez Drault, et qui s'appelle « L'éloquence du roman ». C'est un très beau titre. Et elle part de l'idée qu'en fait, toute la littérature du roman actuel est obéie à un devenir discours, dit-elle, et que par conséquent, la vieille notion d'éloquence joue dans le ton du roman et dans le discours du roman actuel. Donc ce brillant tandem va vous parler... Elle va essayer de la notion d'humour. Et alors, sous une forme assez originale, vous allez voir, elles ont inventé un mot valise. Ça se rencontre, vous savez, chez Echnoz. Alors, pastiché Echnoz, elles ont inventé un mot qui, je l'espère, sera fécond de promesses. Je leur laisse la parole.
Voilà, donc l'humouronie de Jean Echnoz, on va voir si... dans Envoyé spécial, l'héroïne Constance, donc, dont nous avons déjà parlé, écoute une émission à la radio dont un extrait nous est donné à entendre. Il s'agit de l'interview d'un cinéaste dont le film Incertitude et doute chez Nitschika, l'espionne amoureuse, sort sur les écrans. Et voici cet extrait radiophonique. Gérard Delplanque, bonjour. Et tout de suite une remarque. Ce titre sonne un peu, comment dirais-je, comme une provocation. Ce sera ma première question. Hommage ou parodie ? Votre propos n'a aucun sens, c'est aussitôt emporté Gérard Delplanque. Ni l'un ni l'autre, évidemment. Il s'agit avant tout d'un film d'action. On a là, à mon avis, une mise en abîme à la fois de l'histoire, puisqu'Envoyé spécial est une histoire d'espionnage, et du style d'Envoyé spécial. Et il me semble que cet extrait exemplifie très bien les caractéristiques de l'humour de Jean Echnoz et les partis pris esthétiques d'Echnoz dans les romans dits d'action, dont on a parlé tout à l'heure avec Bruno Blankmann, du Méridien de Greenwich à Envoyé spécial en passant par Les Grandes Blondes. L'extrait que j'ai cité, donc, qui est le numéro 1 de l'exemplier, est détaché du fil narratif. Il est complètement gratuit. Il n'a aucune fonction dans le récit. Il est en fait un commentaire sur une question qui agite la critique universitaire autour de l'œuvre d'Echnoz. Et cet extrait se développe sur le mode du pastiche d'interview journalistique. Il suscite une connivence amusée du lecteur qui va repérer les tics de style et les clichés journalistiques. Mais il est aussi un pastiche de critique universitaire, cette même critique qui qualifie les récits d'Echnoz d'indécidables. Et le cinéaste, il est dans la salle, le cinéaste donc, il s'agit de Bruno Blankmann, le cinéaste donc fictif hein, d'Echnoz semble trancher dans le sens d'une renarrativisation, comme on dit, puisqu'il dit que son film est d'abord un film d'action. Donc est-ce qu'il faudrait comprendre que Envoyé spécial, pour répondre à la question qui était posée dans la salle tout à l'heure, Envoyé spécial est d'abord un livre d'action, il ne faut pas chercher ailleurs. Par sa gratuité donc dans le récit, par son humour de connivence, par sa dimension donc de réflexivité, ce passage que j'ai cité, que je commente, s'inscrit donc dans une esthétique du jeu, J-E-U, jeu aux deux sens du terme, et commente tout en l'illustrant la dimension ludique qui est bien reconnue au récit echnozien. Donc, nous nous sommes concentrés, enfin, pour la première partie, nous nous concentrerons donc sur l'envoyé spécial, puisque l'humour a déjà été pas mal traité dans les œuvres précédentes d'Eschnauz. Et l'humour et l'ironie, dont nous parlerons ensuite dans un deuxième volet, l'humour et l'ironie sont constitutifs, de l'entreprise littéraire d'Eschnauz, comme il le rappelle lui-même, c'est la citation numéro 2 que je ne vais pas lire en entier, vous l'avez sur l'exemplier. Il y a une dimension ironique dont je ne peux pas me passer. À un moment, l'efficacité du récit me paraît bizarrement plus satisfaisante si elle passe par une espèce de couche d'air qui relève à la fois de la distance et du sourire. Alors l'auteur ne distingue pas humour et ironie, on reviendra peut-être sur ce point. Alors, comment fonctionne cette fiction rieuse, hein, et que dire de nouveau ici, qui n'était pas déjà été dit par l'auteur dans beaucoup de passages, justement, puisqu'il commente ses propres récits. J'émets l'hypothèse ici que l'humour dans Envoyé spécial repose, comme tout humour, sur une forme d'incongruité, mais spécifiquement, ici, une incongruité qui va toucher les techniques narratives elles-mêmes. Et cette incongruité me semble être vraiment une marque de l'humour de Jean Eschnauz, qui vient donc frapper le traitement d'éléments thématiques, mais aussi donc, les structures mêmes du récit. Et donc, dans un préambule, je vais rapidement rappeler des cadrages théoriques sur l'humour. Et nous verrons ensuite donc, comment l'humour informe les structures narratives, le narrateur, le lecteur, les descriptions, les points de vue. Et je m'intéresserai ensuite au choix et au traitement donc, de la matière, des thèmes, hein, de la matière référentielle, qui est un véritable lieu de l'humour dans Envoyé spécial. Je conclurai donc ce premier volet sur le caractère indécidable de cette vis comica des fictions, entre engagement critique de l'ironie donc, et légèreté ludique de l'humour, et peut-être que cela répondra justement à la question qui avait été posée tout à l'heure dans la salle. Donc pour rendre justice finalement donc, à cet indécidable, et c'est pourquoi on a pensé à forger ce mot valise dans le style de Deschnauz, d'humouronie. Et dans un deuxième moment, donc, je laisserai la parole à Christelle Reggiani, et nous centrerons donc cette fois sur la trilogie biographique, donc ça fera écho à la première partie de cet après-midi d'études, donc Ravel, Courir et des éclairs, et nous montrerons donc comment cette humouronie, tout en participant à l'art du récit, engage le sens même de l'œuvre, et en mêlant donc les enjeux existentiels et métaphysiques pour mettre en forme donc une expérience du temps. Donc là on verra qu'il y a de la consistance derrière parfois la légèreté, derrière le vide, la légèreté. Donc, au préalable, dans quelques notions théoriques, mais très, très, très rapidement, Gérard m'avait bien briefé, m'a dit pas trop de théorie, hein, donc voilà, je vais être assez rapide. Simplement, distinction humour-ironie qui n'est pas toujours bien claire, hein, qui est très difficile à faire. Donc, humour et ironie, d'abord, sont peut-être deux regards différents sur le monde. La première différence tient à la position de celui qui fait de l'humour ou celui qui fait de l'ironie. Position humble de l'humoriste, position de supériorité plus jugeante peut-être de l'ironiste qui s'érige en moraliste et qui ne s'inclut pas dans les victimes de ces bons mots ou de ces traits. Comme on dit, l'ironiste chasse avec les chiens tandis que l'humoriste court avec le lièvre. Et donc la cible de l'humoriste, ce n'est pas autrui, ce n'est pas donc l'autre, hein, c'est plutôt l'autre en soi, disons que la cible inclut l'humoriste lui-même. Donc l'humoriste ne se prend pas au sérieux, alors que l'ironiste est volontiers moraliste. Donc voilà un premier cadrage, peut-être, en tout cas c'est ce que je vais suivre dans l'exposé qui suit. L'ironie donc a plus une vocation critique, alors que l'humour est plus ludique. Ce qui caractérise aussi l'humour, c'est que l'humour est basé sur la connivence et non pas sur le clivage, sur le rejet comme l'ironie. Le clin d'œil dans l'humour, la complicité, la connivence sont essentielles. Alors que l'ironie peut blesser durablement, l'humour sauve la face, sauve les faces et regonfle les égos. Un autre trait définitoire que je retiendrai pour finir, c'est l'élément de surprise dans l'humour. La surprise est un élément essentiel de l'humour. L'humour qui peut être défini peut-être comme une alliance de l'incongru, de ce qui est incongru et de la pertinence. Cela semble absurde, mais à y regarder de plus près, une pertinence se dégage de l'absurdité. Et encore une fois, on retrouve cette légèreté et aussi profondeur. Donc, l'incongruité, c'est une rupture, c'est une rencontre hétéroclite, c'est un superflu qui produit un effet de rupture logique, mais pour aboutir à un sens. Si l'on adopte donc ces éléments de cadrage que je viens de rappeler brièvement, on peut mesurer combien les propos d'Echnoz, la citation liminaire, relèvent bien d'un indécidable. Est-ce que c'est une écriture d'ironiste ou d'humoriste ? Un spécialiste qui a étudié l'humour dans Les Grandes Blondes constate que chez Echnoz, l'humour, je cite, « interdit le développement d'une vision critique, aussi radicale que dans d'autres œuvres. La légèreté ne peut souffrir une position de surplomb trop pesamment investie. » Donc, humour, ironie, c'est cet indécidable donc, que nous avons décidé d'appeler humour-ironie. Donc, je parlais tout d'abord d'humour qui frappe les structures narratives. Et je garderai trois points. Tout d'abord, le narrateur. Nous avons, dans Envoyé spécial, cela a déjà été souligné tout à l'heure, un narrateur très présent, c'est un véritable personnage. Et ce narrateur, il est impertinent, pour le moins. Chez Echnoz, donc, la présence du narrateur prend un tour d'emblée humoristique. Cette présence du narrateur, elle se manifeste par une figure de rhétorique, donc je vais dire un gros mot, mais elle a été évoquée tout à l'heure sans être nommée par Bruno Blankmann. Donc, cette figure, c'est la métalepse. La métalepse qui consiste pour un narrateur à entrer dans la fiction, à faire semblant d'appartenir au personnel de la fiction. Le narrateur ne se présente pas comme ayant inventé les personnages, mais comme vivant avec. Et cela peut même inclure le lecteur. C'est un procédé ancien, hein, on le retrouve chez Diderot, hein, Jean-Jacques le fataliste. C'est la technique qui est mise en œuvre. Donc, lorsqu'un personnage sort de la fiction, lorsque le narrateur et incluant le lecteur entre dans la fiction, on parle de métalepse. Et on retrouve ça donc dans beaucoup de romans d'Echnoz. Et en particulier, ça prend une forme très forte dans Envoyé spécial. Or, le narrateur, théoriquement, très souvent assimilé par le lecteur à la figure de l'auteur, a une représentation dans les esprits qui est une représentation sérieuse. Le narrateur, c'est celui, comme l'auteur à Hoctor, qui est le garant de l'histoire. Il doit être sérieux. Il sait tout, il en sait plus que nous, il en sait plus que les personnages. Et il a donc cette figure traditionnelle donc, de narrateur qui s'est construite au fil des siècles. C'est une figure donc, d'entité sérieuse, cohérente, savante, aux antipodes du plaisantin. Le narrateur n'est pas un plaisantin. Or, ici, se construit, et très, très spécifiquement, très fortement dans Envoyé spécial, un personnage de narrateur impertinent, la formule n'est pas de moi, qui prend le contre-pied de cette représentation traditionnelle d'un narrateur sérieux, représentation que peut avoir le lecteur. Alors, quels sont donc les traits de ce narrateur ? J'ai essayé d'en faire le portrait dans Envoyé spécial. Alors, nous avons toute une série de citations auxquelles je renverrai. D'abord, ici, il est incompétent. Il est incompétent et en plus, il est roublard et il l'avoue. Citation 4a. Certes, le public a le droit d'objecter qu'une telle information ne semble être qu'une pure digression, sorte d'amusement didactique permettant d'achever un chapitre en douceur. Au contraire, il en sait trop, ce qui rompt l'illusion de réel que doit procurer un roman. Par exemple, il utilise un futur prophétique qui énonce comme une prédiction ce qui est en fait constitué par l'écriture elle-même. À trois reprises, le téléphone va sonner, alors que c'est bien sûr l'auteur qui va faire sonner le téléphone. Ailleurs, l'auteur dévoile la toute-puissance narratoriale, et ce faisant, il démonte les rouages du roman. Citation 5. Nous ne comprenons pas non plus, malgré notre omniscience, comment Objat a pu être informé de ce rendez-vous. Et dans ce dernier exemple, évidemment, le terme d'omniscience est un clin d'œil à la critique, puisque le terme d'omniscience appartient au jargon des études de narratologie. Donc, cette bouffée d'auto-satisfaction, malgré notre omniscience, évidemment, contribue à dessiner les traits d'un narrateur burlesque. Alors, parmi les autres traits, donc, il est filou, incompétent, ou au contraire, il en sait un petit peu trop, il est vaniteux, il est aussi paresseux et récalcitrant. Citation 6, « Nous ne prendrons pas la peine de décrire Park Dong-bok, nous n'avons pas que ça à faire. » En plus, il est mal poli. Citation 7, non, je ne l'ai pas mise ça. Lucie était en train de lui administrer au saucisse qu'on peut appeler une pipe. Et puis la citation 7, Marie-Odile avait dû être ce que certains nomment une bonne vivante, d'autres une joyeuse viveuse, ou d'autres encore moins distinguées que nous, une sacrée salope. Cependant, il garde toujours la classe, on a parlé d'élégance tout à l'heure, en n'assumant pas ou en feignant de ne pas assumer les mots crus qui sont mis à distance et qui sont présentés comme imputables à un autre énonciateur. On peut aussi appeler ce que d'autres appellent, etc. C'est pas lui. Lui reste toujours poli. Donc tous ces défauts sont pointés par le narrateur lui-même dans des commentaires incidents. Cet auto-rabaissement ludique correspond bien à la définition finalement de l'humour, et l'effet humoristique provient tout autant de cette feinte pudeur que de la transgression des codes narratoriaux classiques. Et puis surtout, le narrateur ne reste pas à sa place. Donc, outre l'adoption de styles discordants, puisqu'il prend tour à tour la casquette du journaliste, du conférencier, du guide touristique, il s'immisce dans la fiction et il y fait même entrer le lecteur. C'est là que je parlais de la figure, j'évoquais cette figure de la métalepse. Ainsi, le narrateur ne prétend pas avoir créé les personnages, il prétend vivre avec. Bruno Blankmann a cité tout à l'heure le passage donc, où on s'est mis à table, voilà. Ici, nous avons donc deux modalités d'insertion du narrateur. Il y a le narrateur qui entre dans la fiction, et puis il y a le narrateur qui fait aussi participer le lecteur, qui fait entrer le lecteur dans la fiction. Donc, nous avons parfois l'emploi de nous et parfois l'emploi de vous. Alors, nous avons avec nous, le lecteur donc se trouve embarqué, c'est la citation 9A, « Bref regard réparateur de l'avocat et de nous tous d'ailleurs ». 9B, nous voilà donc partis vers Nation. Et donc, tout à l'heure, Bruno Blankmann a cité donc le passage où on s'est vachement marré à table. Parfois, le narrateur embarque simplement le lecteur en disant « vous », c'est-à-dire en s'adressant, en intégrant le lecteur de manière directe dans le livre. « Vous êtes mûr », dit le narrateur, page 187, il a fait entrer le lecteur dans la peau de Constance à la faveur d'une comparaison. C'est l'exemple 10. « Constance a erré d'une pièce à l'autre, comme il arrive quand vous revenez d'un long voyage. Vous êtes mûr. » Mûr pour partir en Corée après le stage en Creuse. Donc ça permet... là encore, pardon, si on peut voir une ironie critique, par exemple à l'égard de la modification de Butor et des techniques du nouveau roman, puisque dans la modification du Butor, vous savez, le livre est écrit à la deuxième personne du pluriel, enfin, commence la modification, commence vous êtes dans le train, etc. Donc, si une ironie critique, c'est un procédé qu'il a déjà utilisé dans Les Grandes Blondes, si une ironie critique donc, peut être décelée, donc à l'encontre, par exemple, du nouveau roman, de la modification de Butor, l'effet humoristique l'emporte et reste sensible, sans doute même pour des lecteurs qui n'auraient pas en tête ou qui n'auraient pas lu la modification de Butor. Alors, la fonction de cette incarnation du lecteur en personnage, elle est explicitée sur le mode bouffon lorsque, c'est l'exemple 10B, lorsque le narrateur s'écrit « Mais cessez donc de vous prendre pour Constance ». Donc, en plus, il engueule le lecteur. Donc, nous avons ici un jeu qui est certes censé instaurer une distance critique toute moderne, voire post-moderne, entre le lecteur et puis la matière, le contenu du livre, mais peut-être que ce qu'est en train de nous dire Echnoz à travers l'humour, c'est que cette mise à distance, ces tentatives de mise à distance toute moderne, peut-être qu'elles sont impuissantes face à l'attraction irrésistible de la bonne vieille identification au personnage principal. Donc, il se construit donc, pour conclure sur ce point, une figure du narrateur en personnage pour le moins impertinent, auquel le lecteur donc se trouve associé, sans qu'on puisse néanmoins dire que le récit va s'effacer derrière la narration. Il me semble que ce n'est pas tout à fait le cas. Bon, on peut en discuter. Donc l'humour qui est lié à la figure du narrateur met du plomb dans l'aile au narrateur. Mais il n'y a pas que cela. Je parlais de donc, l'humour qui frappe les structures narratives. Il y a aussi la logique du récit, et en particulier les descriptions. Les descriptions sont frappées très souvent par la gratuité. Et la gratuité, c'est aussi le surplus. La gratuité, c'est aussi une des caractéristiques de l'humour. Beaucoup de descriptions sont ostensiblement gratuites et digressives. Alors, vous en avez des exemples. Par exemple, en 11, il se dirige vers la première porte de la voiture, face à la sortie du quai, d'où 47 marches, en trois inégales volées, le hisseront vers le boulevard. Donc, le narrateur compte les marches, nous inflige d'ailleurs à plusieurs reprises des listes chiffrées très exhaustives. Et cette maniaquerie, donc, cette maniaquerie comptable, manifeste une intention sans doute satirique à l'égard de la description, intention qui rejoint les critiques les plus classiques, hein, au-delà des surréalistes, la critique de Boileau, hein, l'auteur trop plein de son sujet compte des plafonds, les ronds et les ovales. Hein, donc voilà, critique de la description. Mais encore une fois, au-delà de la satire, donc de ce qui serait un effet d'ironie, satire pas forcément perçue par le lecteur qui n'a pas toujours Boileau en tête, il y a le sourire lié à l'incongru, au surplus, au détail inutile, à l'effet de familiarité référentielle. Par exemple, quel Parisien, je sais pas, n'a pas compté les marches de métro ? Moi, je les compte, mais Donc, je ne suis pas vraiment parisienne. Donc, d'autres descriptions gratuites sont beaucoup plus étendues et prennent une forme onirico-burlesque qui est complètement déplacée dans un roman d'espionnage. C'est par exemple la citation 12 que j'ai tronquée mais qui est extrêmement amusante. On sait d'ailleurs trop peu qu'au cimetière de Passy, loin du siècle et des projecteurs, les pensionnaires donnent régulièrement un spectacle de fin d'année soutenu par une distribution remarquable. Fernandel, François Perrier, Jean Servais, et vous avez en fait tous les morts du cimetière de Passy qui sont cités, enfin tous ceux qui auraient pu participer à un spectacle. Donc nous avons ici un pastiche doublé, un pastiche à la fois de guide de monuments historiques et d'au théâtre ce soir, pour ceux qui s'en souviennent, un pastiche extrêmement documenté puisque j'ai vérifié tous les acteurs de ce passage et la liste est beaucoup plus longue, sont réellement enterrés dans ce cimetière. Et cette liste donc exemplifie le caractère gratuit, lourdement didactique qui est reproché aux descriptions romanesques, mais tout en faisant autre chose, c'est-à-dire en nous proposant ce qu'on pourrait appeler une petite vanité classique pour notre édification, puisque le ton est celui du moraliste, voire le mot siècle, qui est un ton de moraliste, presque de prêcheur, et en désacralisant la mort sur le mode burlesque. Et je ne vais pas développer sur ce point, je pense que là l'exemple est assez éloquent, mais l'absence de nécessité, les entorses à la logique narrative sont donc très abondantes tout au long du livre. Le troisième élément des structures narratives que je voulais évoquer et qui est la cible de l'humour qui est informé par l'humour dans ce roman, ce sont les points de vue flottants. Les points de vue flottants, qu'est-ce que j'entends par là? Ça veut dire que nous avons une sorte de polyphonie dans Envoyé spécial qui consiste à mêler les différents points de vue des personnages et du narrateur au sein du récit, chaque point de vue adoptant le style qui serait celui du personnage si celui-ci s'exprimait directement. C'est une technique qui va abolir les frontières entre le discours rapporté et le récit, qui va se traduire par des ruptures de syntaxe, des ruptures de lexique. Par exemple, donc évoquant le premier dîner, c'est l'exemple que citait Bruno Blankmann tout à l'heure, c'est l'exemple 13, donc le premier dîner entre Constance et ses ravisseurs, le narrateur note « Christian a préparé un nouveau bouquet de fleurs et vers 18h, Constance s'est mise en cuisine. Le dîner s'est vachement bien passé. » Donc l'adverbe familier ici traduit en fait non pas le point de vue d'un narrateur, mais le point de vue des personnages, des participants, c'est ce que j'ai appelé polyphonie. Mais après tout, on peut se dire, mais c'est aussi le point de vue du narrateur qui participe, puisqu'on a vu qu'il pouvait participer. Donc un certain nombre de marques de l'incongruité stylistique du narrateur viennent donc de cette polyphonie possible. Qui parle finalement? Quel est le point de vue qui est ici évoqué? Le narrateur ou un ou plusieurs personnages? Parfois même on peut penser que c'est le narrateur tout seul, il n'y a pas de polyphonie, c'est le narrateur tout seul qui se relâche, comme lorsqu'il dit à propos d'une description botanique, page 19, ça bourgeonnait sec chez les tuyas. Il n'y a pas de point de vue de tuyas, ce n'est pas le point de vue du tuyas, je pense, c'est le point de vue du narrateur. Donc, ce qui est intéressant et amusant et humoristique dans cette contamination des points de vue, ce n'est pas tant donc, l'emploi d'un style familier, d'un ton oral familier dans le récit, ce n'est pas non plus l'emploi des clichés de la langue contemporaine, ça se voit ailleurs, le roman s'en répète depuis des décennies. Ce qui crée l'humour, c'est que l'expression triviale, vulgaire, puisse être imputée au narrateur en dehors justement de tout soupçon de polyphonie. Donc, ces incongruités narratives relèvent bien d'une indécidable, à mon avis, humouronie. L'auteur exhibe les rouages, un tantinet rouillé d'une machinerie romanesque qui a fait son temps, mais ce faisant, il prouve que cette machine, eh bien, elle peut encore fonctionner. Il rit de l'omniscience, mais il reste omniscient. Ça cache peut-être mal, donc une nostalgie de l'âge d'or romanesque, comme on l'a dit. Et donc l'humour est la posture finalement de celui qui ne peut plus rester sérieux en écrivant des fictions sous peine d'être taxé de ringardise. Et finalement l'humour remplit bien cette fonction qui est de sauver la face, on rit de l'autre en soi, la face de l'auteur qui continue à écrire des fictions et la face du lecteur qui peut se livrer aux joies du narratif tout en se faisant croire que c'est une lecture au second degré. Et les procédés donc que je viens... j'ai encore un peu de temps ? Non, plus beaucoup. Les procédés... D'accord. Les procédés que je viens d'évoquer donc, deviennent une source d'humour particulièrement efficace lorsqu'ils sont appliqués à des, c'est mon deuxième point, à des thématiques qui pourraient être parfaitement déplacées par rapport à la logique de l'intrigue, sont des éléments forts d'identification pour le lecteur. Ce sont en gros des hors-sujets narratifs, mais qui sont traités donc de manière inappropriée, mais qui sont au service d'un effet de connivence, d'empathie très fort, propre à susciter ce qu'on pourrait appeler un sourire cathartique chez le lecteur. En particulier, ce sont tous les thèmes quotidiens qui sont traités sous la forme de l'humour noir. Et puisque je n'ai pas beaucoup de temps, donc l'humour noir qui consiste à plaisanter sur des sujets graves, tabous, hein, et donc qui exerce une fonction cathartique, je vais prendre qu'un seul exemple, page 56, donc ce doit être l'exemple 15 de l'exemplier, le récit du calvaire de Poniel en prison, donc esclave sexuel des caïdes pendant 10 ans. Ça me paraît être vraiment une parfaite illustration de cet humour noir, de cet humour cathartique. Donc il a été brutalisé quand il a, nous dit le narrateur, rechigné à devenir serviteur sexuel. Pour qu'il s'imprègne bien de la culture ambiante, on lui a commencé par lui casser les genoux. Et finalement, il a vu sa situation s'améliorer dès qu'il a mis ses orifices à la disposition d'un protecteur, puis de plusieurs protecteurs, puis d'un nombre indéterminé de clients de ces protecteurs à qui ceux-ci ont loué Clément Poniel à la demi-heure. Et comme à tous, il donnait pleine satisfaction, on a voulu le garder. Le point de vue adopté ici, alors ça ne fait pas rire tout le monde, j'en ai bien conscience, mais le point de vue adopté ici est celui, la preuve, est celui de la victime. C'est Poniel qui raconte à son ami, j'ai oublié son nom, à son ami coiffeuse, la camionneuse qu'on a évoquée tout à l'heure, il lui raconte cette histoire. Voilà, donc c'est son point de vue et l'euphémisation, on le voit, domine, hein, je ne reprends pas les termes, il y a refus du pathos, il y a une mise à distance pour réécrire une réalité réelle, hein, de la vie carcérale. Et cette façon de raconter les choses permet de sauver la face, je ne vais pas dire autre chose, de Poniel, tout en ne masquant rien non plus. C'est exprès. Tout en ne masquant rien des horreurs de la vie carcérale. Je veux dire, c'est quand même dit. Hein, c'est quand même dit, mais voilà. Donc, et le deuxième élément, et je m'arrêterai ensuite là, le deuxième élément que je voulais évoquer par rapport à l'humour, donc cet humour du quotidien, cet humour propre à créer l'empathie avec le lecteur, c'est l'humour autour de la loi de Murphy. Tout le monde connaît la loi de Murphy, ou LEM, loi de l'emmerdement maximal, ou loi de la tartine beurrée, hein, qui s'énonce ainsi, tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera forcément mal. Ainsi, on pourrait penser, vu les lois statistiques, qu'il y a un équilibre lorsque la tartine tombe entre statistiquement entre le côté pile, côté beurre et le côté face, côté sans beurre. Et en réalité, on s'aperçoit quand ça nous arrive à nous que c'est toujours le côté beurre qui tombe. Enfin, la tartine tombe toujours sur le côté beurre. Et donc, la loi de Murphy est abondamment représentée dans Envoyé spécial, des clients publicitaires envahissants, boîtes de médicaments récalcitrantes, appareils ménagers qui marquent tous des heures différentes, caddie de Super-Est qui tire lourdement à gauche. Hein, voilà. Tout cela est narrativement incongru, mais ces éléments trouvent leur raison d'être en ce qu'ils incarnent la loi de Murphy. C'est l'exemple 18. Lorsqu'il ouvre une boîte neuve de médicaments, c'est toujours du mauvais côté, celui de la notice d'utilisation pliée sous les piles. Ce phénomène paraît inévitable, comme une tartine chue tombe toujours côté confiture sous l'effet d'une malédiction. Donc la loi de Murphy est ici énoncée. Bien sûr, les fonctions narratives n'y trouvent pas leur compte. Ce passage n'informe le lecteur sur rien, il ne fait pas avancer l'intrigue, il n'explique rien du tout, il ne sert même pas à faire vrai. Chez Zola, Pélestor prendrait ses médicaments parce qu'il est dépressif. Ici, quand il prend les médicaments, il tombe sur le mauvais côté de la boîte. Le traitement de ces éléments est tout aussi donc inapproprié. Donc, c'est l'alliance de l'incongru narratif, tout ce qu'on vient de lire est complètement inutile, gratuit du point de vue narratif, et de la familiarité de l'expérience, de la familiarité référentielle, qui provoque le sourire de connivence. Le lecteur se trouve inclus dans le cercle de ses victimes du sort. Et comme Constance, donc notre héroïne, l'écriture des Schnauz esquisse sans cesse, dans les pires circonstances, un sourire incongru. Ça, c'est page 33. Donc, conclusion, transition vers le deuxième volet. Incongru narratif, donc, d'une part, traitement humoristique des structures narratives, mais familiarité référentielle et humour autour du quotidien, et en particulier humour noir, hein, pour rire de nos malheurs, le ton, c'est bien celui de l'humoronie. Le sourire échnosien, me semble-t-il, est un sourire empathique. L'humour repose sur donc, des déplacements de ton, de mots, de thèmes, de genres. Échnos bouge les meubles, mais on reste toujours dans l'appartement. Et le lecteur n'est pas dépaysé, on torse à temps. Donc l'humour, est-ce que Il est principe organisateur du récit. Est-ce que c'est une machine à fiction ? Il me semble que l'humour permet d'échapper à une machine textuelle trop bien huilée, pardon, un peu trop vieille, si vieille que peut-être elle tourne à vide. Et il me semble qu'à la lumière donc, des quelques pistes que je viens d'évoquer, il me semble que l'humour d'Envoyé spécial retrouve bien, peut-être que ça peut répondre à quelques questions, sa fonction ontologique première, comme chez Beckett, sauvé du désespoir métaphysique.
Et donc, je vais essayer de creuser un petit peu cette piste métaphysique. Donc, ce sera moins drôle. Hein, j'en ai peur. Donc, il y avait quand même la meilleure part, je pense. Mais bon, pour essayer d'explorer un petit peu plus ces enjeux que peut avoir donc, l'humour des Schnauz. Alors, moi, je m'appuyais plutôt sur la trilogie biographique dont il a déjà été question tout à l'heure. Donc, vous le voyez dans la suite de l'exemplier. Donc, Ravel, Courir, Des éclairs. Alors, à laquelle j'ajoute, pour faire bonne mesure et puis reprendre le motif romanesque qu'incarne de manière très frappante pour tout le monde, je pense, Les Trois Mousquetaires. Donc, j'ajoute un quatrième livre à cette trilogie, c'est 14. Qui est paru en 2012 et donc qu'on peut lire, me semble-t-il, comme une biographie, aussi une biographie fictive, une biofiction de la Grande Guerre, donc réfractée au prisme de quelques subjectivités. Alors, à l'évidence, cette trilogie, elle participe de la vogue contemporaine du retour au récit, dont on a déjà eu l'occasion de parler aussi. Hein, en tout cas, le phénomène est concomitant. Et il se traduit en particulier, depuis environ 30 ans en France, par un vrai retour aussi au récit biographique, alors qui est souvent matiné de fiction, avec différentes variantes. Hein, on peut avoir des biographies historiques fictionnalisées, ou à l'inverse, plutôt des biographies fictionnelles historisées. Alors, dans les deux cas, le travail des Schnauz s'inscrit dans ce cadre-là et ça inverse, bien sûr, les interdits qui avaient été énoncés un peu avant par le nouveau roman. Vous vous souvenez peut-être qu'Alain Robbe-Grillet, en 1957, avait décrété que le personnage et l'histoire étaient désormais des notions périmées, hein, je le cite. Là, ici, bien sûr, des personnages, de l'histoire, des histoires, on en a. Autrement dit, le modèle biographique, du coup, se trouve à nouveau lisible, disponible, hein, pour les écrivains, pour les lecteurs. Alors, d'autant plus librement, peut-être que sur ce point-là, l'illusion biographique avait été dénoncée, notamment par Bourdieu. Bon, c'est un facteur sans doute secondaire. Or, ce projet même d'écrire une biographie, même tissée de fiction, et si vous avez lu cette trilogie, vous avez pu noter que sur la couverture des trois livres figurait le sous-titre « roman ». Ce sont quand même des biographies, donc tissées de fiction apparemment, et le projet d'écriture est en tout cas temporel, puisqu'il fait jouer, alors selon l'encyclopédie du lecteur, des lecteurs, le ressort privilégié, à la fois dramatique et énonciatif, de l'ironie. Et en effet, le savoir rétrospectif du lecteur va rencontrer les projections vers l'avenir des personnages pour constituer cette forme particulière d'ironie dont l'écriture tragique a tiré un très très large parti depuis l'Antiquité. Alors on peut penser d'abord à l'Édipe roi de Sophocle, où vous vous souvenez qu'Édipe enquête en fait sur sa propre souillure, hein, sur sa propre culpabilité. Alors dans la suite du document, vous avez dans les exemples 21 à 23 que je vous laisse découvrir, un petit échantillon schnauzien donc du phénomène. Alors je lis juste partiellement la première de ces citations, donc celle qui porte le numéro 21. Donc il s'agit du Boléro. Voilà au moins, dit-il, un morceau que les orchestres du dimanche n'auront pas le front d'inscrire à leur programme. Alors évidemment, quand on connaît la suite de l'histoire, c'est assez drôle. Vous voyez, avec 14, c'est la citation 23. Donc Charles, et il n'était pas le seul à l'époque, donc pensait que cette guerre de 14, ça allait être l'affaire de 15 jours. Et en effet, ce marquage tragique, il n'est pas étranger aux biographies des Schnauz, qui se plaisent à expliciter sur des modes divers l'existence d'un destin, vraiment d'un fatum pesant sur leur personnage. Donc là, je vous renvoie aux exemples 24 à 26. J'attire juste votre attention dans le 26e sur cette micro-réécriture de la Bible, conte, pèse, partage, hein, qui reprend l'inscription « Manet, Tessel, Fares » qui apparaît au mur, hein, lors du festin de Balthazar. Donc là, on n'est plus dans le léger, là aussi, pour reprendre des questions qu'on a déjà discutées. Mais en l'occurrence, il me semble que l'orientation de ces ironies, qu'elles soient comiques ou tragiques, importe peu. En fait, l'important, c'est ce jeu avec le destin. Alors, je ne sais pas, ironie destinale, ça ne sonne pas très bien, mais l'essentiel, en tout cas, tient à leur nature proprement temporelle, qui permet, au fond, au-delà des éventuels usages tragiques du phénomène, de combiner dans des proportions variables projection et rétrospection. Donc, pour donner à l'expérience humaine du temps, en fait, sa forme la plus adéquate. Alors, la philosophie, depuis Husserl, parle de rétention pour cet horizon rétrospectif, de protension pour la projection. En tout cas, les deux sont confrontés dans ce type de séquence. Et la confrontation de ces deux orientations, par la différence qu'elle installe, parvient, je crois, à saisir quelque chose du mouvement même de la temporalité, tout en le rendant par l'abstraction que représente en même temps cette saisie oppositive, appréhendable par l'esprit, compréhensible. Et de fait, ces trois biographies d'Eschnoz partagent une même inspiration temporelle. Alors, on serait plus du côté de Zénon que de Saint-Augustin. Un Saint-Augustin qui disait « Mais le temps, on me demande ce que c'est, je ne sais pas répondre. » Zénon, donc lui, pensait que jamais Achille ne parviendrait à rattraper la tortue. Parce qu'en fait, l'objet qui est démesurément ambitieux du récit de vie n'est autre à chaque fois que la saisie du temps lui-même, au-delà des circonstances biographiques de l'itinéraire de tel ou tel. Et au terme de la trilogie, le début de Des éclairs l'énonce d'ailleurs de manière parfaitement claire en posant explicitement cette question du temps et de sa mesure. C'est l'exemple 27. Alors cette quête d'une forme où le temps se laisserait comprendre, elle n'est pas inaboutie, puisqu'elle rejoint en fait le rêve du perpetuum mobile dont on a déjà parlé tout à l'heure, donc que Ravel désigne de cette façon. Vous avez l'extrait sous le numéro 28. Et puis ça se retrouve dans Des éclairs, donc traduit en français, mouvement perpétuel, c'est la citation 29. Et puis dans Courir, ça va être la manière apparemment désordonnée, disloquée de Zatopek qui en donne une très saisissante incarnation avant la fuite en avant vers l'instant pur, donc qui représente une échappée nécessairement aporétique du flux temporel. Et ça, c'est le mouvement qui emporte Des éclairs, cette biographie d'un homme devenu temps, en fait, puisqu'il a fait de la question du temps son affaire personnelle. Je vous renvoie à l'exemple 31. Alors, je voudrais maintenant donner quelques indications sur l'écriture de ces fictions du temps, parce qu'elles cultivent quelques formes linguistiques privilégiées et qui me semble propre à actualiser, enfin à donner son actualisation langagière la plus convaincante à la permanence insaisissable de ce perpetuum mobile. Alors on pourrait penser aux formes verbales, au présent, au futur, bien sûr, à certains mots aussi. Vous avez tout le vocabulaire de la persistance, n'avoir de cesse, sans cesse, qui reviennent vraiment dans les trois livres. Donc là, vous avez un très très bref échantillon sous les numéros 32 à 39, en fait. Mais je voudrais insister sur un point de grammaire aussi, enfin, en espérant ne faire fuir personne, c'est qu'on s'aperçoit en lisant cette trilogie que Eschnoz a manifestement un goût particulier pour la disjonction de la proposition relative de son antécédent. Alors, on va regarder l'exemple 40. Ravel ne s'en prive pas, qui arpente les ponts? En français du XXe siècle, du XXIe aussi, on attendrait plutôt Ravel qui arpente les ponts. Et ce type d'écart, donc une distension dans la syntaxe de la phrase, mais qui, à mon avis, rejoue à ce plan-là l'écart temporel aussi, qui commande l'invention de la fiction. Vous en avez d'autres exemples ensuite. Alors, Eschnoz expérimente aussi avec d'autres modes de distension. Vous voyez l'exemple 43 qui empruntait à Des éclairs, je lis juste la fin. Il paraît bien plus attentif à la contemplation de ces volatiles qu'à celle des, par exemple, filles, où on a par exemple donc qui sépare l'article du nom. Alors, c'est en tout cas ce sont des manières de défaire les articulations temporelles. Et puis qui sont aussi des manières de retourner au passé de la langue, puisque ce qui fait un petit peu saillie dans l'état actuel du français est en fait un retour à la syntaxe du français classique, donc du XVIIe, du XVIIIe siècle. Donc autrement dit, on a des archaïsmes discrets, disons, dans ces manières d'écrire. Autrement dit, une façon de désancrer la langue elle-même, pour instaurer un jeu temporel, donc du jeu, au sens mécanique du mot, pour la creuser, peut-être, hein, c'est Mallarmé qui disait qu'il entendait, lui, en tant que poète, creuser le vers, mais je crois que Eschnoz, il creuse la langue, lui aussi, à sa façon. Et cette facture syntaxique, enfin ce travail sur la facture syntaxique, rejoint alors d'autres marques, peut-être plus apparentes, d'une même dissonance temporelle. Et d'ailleurs, dans Des éclairs, vous voyez l'exemple 45, qui est une reprise plaisante de l'idée oulipienne de plagiat par anticipation, qui est bien sûr un petit voyage dans le temps, un paradoxe temporel. Dans Ravel, il y a aussi ce curieux décalage qui caractérise apparemment les étés en Amérique. C'est l'exemple 46. La temporalité paradoxale de la vie de Grégor, mais enfin, je pense que c'est peut-être un paradoxe que nous éprouvons tous. C'est l'exemple 48 qui a déjà été cité tout à l'heure. Et puis dans 14, on a cette fin très curieuse du roman, du récit, par l'évocation de la conception de Charles. Alors là, Eschnoz joue non plus, enfin, peut-être avec Diderot, mais surtout avec Sterne, Tristram Shandy, qui commence par la conception du personnage, mais là c'est la fin qui se termine par une scène de conception. Autrement dit, la fin du livre, elle devient la désignation la plus concrète qui soit de l'objet même finalement de la trilogie, à savoir un instant, mais qui est un instant gros du futur, hein, celui où on conçoit un enfant. Et j'ajouterais au plan éditorial qu'il importait sans doute à Eschnoz, mais il faudrait lui poser la question, que 14, le roman, paraisse en 12, l'année, en 2012, et surtout pas, je crois, en 2014, alors que l'ellipse des deux premiers chiffres du millésime, hein, le titre c'est 14, c'est pas 1914, donc en désancrant le nombre de son année, pouvait appeler la commémoration du centenaire, et on l'a vécu, cette commémoration. Alors si je viens de citer 14, alors j'ai déjà eu l'occasion de le suggérer, c'est que cette biographie fictive de la Grande Guerre, elle semble bien, sous ce titre numérique, donc un nombre qui est le nom d'une année, énoncer de la façon la plus limpide le principe temporel, c'est-à-dire en l'occurrence ironique, de la trilogie entière, à savoir que la notoriété, pour moi la relative notoriété de sa matière historique, doit en effet, enfin du moins on peut le supposer, rendre parfaitement lisibles des jeux ironiques dont l'évidence est sans doute bien moindre pour un lecteur français s'agissant des biographies de Zatopek et de Tesla. Et d'ailleurs, alors c'est très intéressant de penser à ce qu'a été la réception de la traduction de Courir en République tchèque, qui a été extrêmement houleuse aussi bien de la part des lecteurs que des critiques, des journalistes, ben tout simplement parce que le livre a été reçu comme une démolition d'un héros national. Zatopek en République tchèque, c'est un peu comme Johnny pour les Français, et donc les gens n'ont pas du tout compris qu'on puisse avoir cette distance ironique par rapport à un tel personnage, et donc le livre a été en fait très mal reçu. Donc on voit bien évidemment qu'il y a une composante nationale qui détermine les encyclopédies des lecteurs. La guerre de 14, pour nous, c'est sans doute une matière plus familière, et donc où ces jeux ironiques jouent davantage. Alors Eschnoz, il le dit, pour écrire Courir, avait beaucoup lu et réécrit d'ailleurs la prose de l'équipe. Alors pour en revenir à la question du temps, il y a une très très belle formule du critique Albert Thibaudet, qui en 1912, donc là aussi c'est contemporain de la matière, a écrit « Un roman a le temps ». Alors on peut comprendre que le temps, c'est plus largement l'affaire même de la littérature, pas seulement du roman, hein, c'est sans doute contre, ou du moins en regard de l'expérience sociale de la temporalité, que s'élabore le temps suspendu de la littérature, qui devient aussi notre temps de lecteur, hein, le temps de la lecture. On pourrait le dire avec les mots de Proust, hein, le temps de la littérature, c'est l'autre du temps social. Alors, à cet autre, l'histoire, qui est aussi celle des régimes temporels, va donner des contenus, des noms différents. Alors, dans la littérature française, on pense à ce beau mot de contemplation, qui est celui de Victor Hugo. Donc, la contemplation, étymologiquement, c'est la délimitation d'un temple, templum, d'un espace sacré, et donc qui va désigner une suspension transcendante, en fait, pour donner son nom à un recueil poétique de l'exil, exil temporel et puis aussi exil politique, hein, loin de Napoléon III. Alors dans la trilogie biographique d'Eschnoz, je crois en effet que ce petit cycle narratif répond à l'expérience contemporaine du temps, qui associe à l'accélération qui a été très vite reconnue comme un attribut essentiel de la modernité, les modalités diverses d'une contraction induite par la sorte d'ubiquité qui est permise par la technologie et dans la course frénétique de Grégoire, qui en ce sens n'a pas grand-chose à envier à Émile, constituerait une espèce d'avant-courrier assez inquiétant. Et encore, Grégoire, il existe avant Internet, avant les réseaux sociaux. Vous voyez la citation 49, donc tous nous vivons dans une sorte de simultanéisme aujourd'hui, c'est-à-dire on a la possibilité de faire plusieurs choses en même temps. C'est l'ordinaire de notre rapport social au temps. Et je crois que c'est face à ça que la littérature est urgente, enfin qu'elle énonce une urgence qui lui est propre et laquelle consiste en fait en un changement de tempo. Alors cette idée de dilatation temporelle, on l'a déjà dit, elle est figurée de manière très concrète dès le début de Ravel. Les premières lignes, c'est le bain. On a parlé tout à l'heure de liquide amniotique, là c'est une sorte de moment amniotique, hein, c'est la citation 50. Juste après, il y a l'évocation d'un jet d'eau paralysé par le gel qu'on peut voir depuis la fenêtre de la salle de bain, et donc qui constitue, si on veut, une représentation convenue, donc bel et bien figée en effet d'une telle immobilisation temporelle, mais c'est probablement le paquebot, le transatlantique, hein, qu'on a déjà évoqué, qui délimite le mieux l'espace concret de ce temps long, hein, précisément parce qu'il suppose une économie temporelle particulière. Hein, apparemment, on s'ennuie beaucoup à bord d'un paquebot en croisière. Donc, vous avez la citation 51 qui le dit. Et on comprend donc que le paquebot de luxe puisse apparaître fugacement comme le lieu d'une éternité possible, où le temps pourrait être bel et bien tué. Donc tuer le temps, c'est une expression de la langue ordinaire, on la trouve dans le roman aussi, c'est la citation 52. Et en tout cas, pour ces deux arts du temps que sont la littérature et la musique, on peut penser que c'est la forme de la répétition qui va apparaître dans ce contexte-là comme la bonne ressource formelle. Alors à défaut de l'improbable progression lente, hein, je cite Echenoz du concerto en sol, alors on est en train de relire Ravel, on parle de répétition, on pense évidemment au boléro. Vous avez l'exemple 54, où la phrase d'ailleurs montre immédiatement l'exemple, elle se répète elle-même. Et puis donc je reprends tout à l'heure ce que disait Gérard à propos de la remarque de Lindon. On voit que dans le roman, donc, effectivement il y a beaucoup de répétitions, il est question du boléro, et puis Echenoz a donné, disons, des contreparties fictionnelles à cette forme de la répétition à travers le motif du double. En effet, il y a beaucoup de choses qui vont par deux, de la gémellité. Le compositeur Ravel possède deux chats siamois, alors en plus ils sont siamois, donc il y a une sorte de redoublement du double. Et puis vous voyez l'exemple 55 où il présente la genèse de ces deux concertos en sol pour la main gauche comme deux jumeaux, comme la naissance de deux jumeaux.
Hétérozygote,
oui. Mais ils sont en même temps, pour qu'on ait du double, il faut de la distinction aussi. Hein. Et en d'autres termes, je terminerai là-dessus, il me semble que c'est précisément parce que la littérature est aujourd'hui, au moins en partie, une chose du passé, en tout cas dont la pertinence sociale s'est amoindrie, ne s'en délecte plus que quelques happy few, nous. Donc on peut le déplorer, il y a beaucoup d'articles qui le font, mais je crois que c'est justement pour ça que les expériences temporelles que proposent ces fictions peuvent s'avérer utiles en constituant pour les lecteurs, donc pour nous, sur le mode non spéculatif, non théorique, qui est celui de la littérature, une manière d'éducation temporelle. Alors, en disant ça, je ne voudrais pas souscrire même indirectement à la naïveté rhétorique qui caractérise souvent aujourd'hui, et surtout outre-Atlantique, certaines défenses, illustrations des supposées vertus de la littérature. C'est plein de bons sentiments. On nous dit que la littérature est pleine de vertus morales, civiques, donc il faut lire à cause de ça. Mais de manière peut-être plus paradoxale, je voudrais faire l'hypothèse que l'invitation éthique, en effet, que formule le texte littéraire et par exemple ces fictions biographiques d'Echenoz, elle vaut à proportion de leur écart par rapport au mode temporel commun, c'est-à-dire finalement à proportion de la relative marginalité sociale de la littérature, c'est-à-dire qu'en somme sa fiction, la vertu de ses fictions, elle tiendrait à l'exercice temporel, pas si loin au fond des exercices spirituels qu'inventaient les jésuites, qu'elle propose sous la forme désormais relativement ou légèrement archaïque du livre à ses lecteurs. C'est-à-dire qu'il reste à tirer une leçon à la fois éthique, pédagogique et politique aussi de ce parcours pour suggérer que c'est précisément cette perpétuation d'une lecture lente à laquelle ne cesse de nous inviter la prose d'Eschnauz dans sa vivacité même que tient l'urgence de la fréquentation, du partage aujourd'hui de la littérature, c'est-à-dire en somme à la préservation d'une certaine qualité d'expérience temporelle. Merci. Et merci au président de ne pas nous avoir bousculé, ce que font souvent les présidents.
Non, ça va. Ben, j'ai dit à Florence tout à l'heure, mais ça va. Bon, nous sommes dans les temps. Merci beaucoup à toutes les deux. J'ai particulièrement apprécié que, bon, bien sûr, il faut penser le rapport humour-ironie, mais que tu aies pensé l'ironie en rapport avec le temps. Parce qu'il me semble que c'est là que le poids de l'ironie est peut-être le plus sensible. Et tu parlais tout à l'heure, justement, à propos du Boléro, quand il est dit « Ah, voilà au moins quelque chose qu'on ne jouera pas dans les mains ». C'est ce qu'on appelle l'ironie du sort, hein, et auquel la rhétorique donnait un nom. Excusez-moi, c'est un peu pédant, là, mais bon, au moins si vous retenez quelque chose, ce sera ça. C'est ce qu'on appelait l'anticatastase. C'est-à-dire que ce qui vient après est l'inverse de ce qu'on pensait. Et en fait, il y a une figure d'anticatastase rajoutée au temps. Et alors, je pensais à quelque chose de très précis, mais je pense que tu en conviendras. Bon, ce sont des gens qui essaient de maîtriser le temps. Et notamment, ils essaient de le maîtriser en comptant. Et alors, ce qui est le plus net, c'est outre Ravel, qui lui aussi compte pour s'endormir, c'est Grégoire qui non seulement remonte et démonte les horloges, hein, mais aussi compte sans arrêt et compte tout. C'est une manifestation de ce qu'on appelle le syndrome d'Asperger, d'ailleurs, qui frappe souvent les savants et les mathématiciens. Alors, ce qui est intéressant, c'est que justement, compter comme ça, c'est une manière de vouloir, en quelque sorte, thésauriser et posséder le temps. Mais on sait très bien depuis Freud que c'est ambivalent parce que toute répétition sous forme de comptage est par avance la figure de la mort. C'est une pulsion de mort. Et alors justement, c'est là qu'on touche du doigt, effectivement, la représentation terriblement ironique du temps dans l'œuvre de Deschamps. Et je pense que vous êtes convaincue, madame, par ce type d'exposé, on voit qu'on touche très très vite hein, à un double fond extrêmement sérieux et même tragique chez Eschnauz, dont je pense que ton exposé... Alors, c'est magnifique, parce que les deux exposés se complétaient très bien. Je pense, bon, l'aspect ludique et l'aspect terriblement noir se complétaient magnifiquement à toutes les deux.
C'est fait exprès.
Ah non, ah bon ? Je m'en serais pas douté. À toutes les deux, vous êtes la figure d'Eschnauz, si je puis dire. Mais les deux, toujours pareil, les deux. Bon, donc je laisse la parole maintenant au public. Si vous avez des questions... Ah oui, oui, oui. Je pense que... Moi, j'en ai bien sûr, mais bon, moi, je suis hors jeu pour l'instant. Donc, allez-y. Ce sont des exposés passionnants qui ont dû, je pense, susciter la réflexion. Le temps que vous réfléchissiez, je tiens à vous préciser, j'ai oublié de vous dire tout à l'heure, j'y tiens beaucoup. Bon, Florence n'a pas choisi cette question au hasard, ni Christelle. Nous sommes plusieurs à participer à un groupe de travail qui s'appelle Textile, écrit avec Y, c'est un mot valise, qui se tient à l'École normale supérieure, sous forme de séminaire 5 à 6 fois par an, et qui se termine tous les 2 ans par un colloque organisé par le groupe. Et depuis 2 ans, il y a eu un colloque qui s'est tenu en juin, notre question a été la question de l'humour. Je dois d'ailleurs encore un article sur humour et poésie, comme me réclame à corps et à cri, que je n'arrive pas à terminer d'ailleurs. Bon, enfin voilà, donc nous avons beaucoup réfléchi à la notion d'humour et au problème de l'ironie, ce qui vous explique que les exposés étaient si musclés sur ce point-là. Voilà, donc je répète ma question, avez-vous des questions ? Le trio infernal, Agnès, Stéphane, Bruno, vous qui êtes de... Avez-vous dit... Madame, je vous en prie.
J'aurais une question, mais qui est peut-être un peu hors sujet par rapport à...
Non.
...magnifiques exposés, parce que qui appelle un approfondissement de l'œuvre d'Eschnauz, je trouve, ouais. Et qui, à mon sens, c'est beaucoup plus grave qu'elle ne paraît de prime abord. Il n'y a qu'à lire la fin de Ravel pour en être convaincu.
Absolument.
Et quand il en parle lui-même dans ses interviews, on peut sentir son émotion.
Bien sûr, bien sûr.
il n'arrive pas à en parler sans que sa voix ne trahisse quelque chose de cet ordre-là. Bon, en ce qui concerne l'humour, là, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est le traitement par rapport au temps et par rapport aux figures de style. Ça, j'ai trouvé ça très, très, très parlant. Mais la question un peu annexe que j'aurais voulu poser, c'est une assertion de Bergugnou que peut-être j'ai mal comprise, qui dit « L'humour est un privilège de classe. » Qu'en pensez-vous?
Je crains malheureusement qu'il ait raison. Bergugnou. Là, on ne sera pas d'accord, mais bon, je laisse d'abord Florence répondre, après je vous dirai ce que j'en pense.
Ça, c'est
toi la spécialiste.
Linguistique, mais oui, peut-être, parce que dans la mesure où il est linguistique et où il suppose quand même une certaine maîtrise du langage, oui, forcément, oui.
Je parle pas du linguiste.
Non, je parle.
Pierre.
Oui.
Oui.
Mais oui, je pense qu'il a raison, oui. Quelle que soit la façon dont on le prenne, oui, je pense qu'il a raison.
Stéphane, bout d'impatience, on le verra.
Pardon.
Ah bon?
Ah ben non.
Je ne sais pas si on va t'excuser.
Je suis désolé d'être complètement en désaccord avec Bergugnou, qui est un très grand écrivain, mais je trouve que ce n'est pas du tout un privilège de classe. C'est une autre inégalité que l'on ne voit pas suffisamment aujourd'hui, qui est tout simplement l'inégalité des caractères. Vous avez des caractères différents. Vous avez des gens qui ont une aptitude au bonheur, vous en avez d'autres qui n'ont aucune aptitude au bonheur. Vous avez des gens qui ont une aptitude à l'humour, vous avez d'autres qui n'en ont aucune. Vous avez des gens qui ont des doigts de pianiste et qui savent merveilleusement jouer Chopin, et vous en avez d'autres qui... Bon, voilà. Et ça, c'est une terrible inégalité.
C'est une question de tempérament, alors.
Oui, complètement.
C'est une question d'humeur.
D'humeur, complètement.
Bon, disons que c'est un privilège qui a de la classe. Voilà.
Oui.
Madame.
Par rapport à l'humour, je crois que quand on a vu quand les gens ils étaient dans les camps ou qu'ils étaient au goulag, ils ont fait preuve quelquefois d'un humour démesuré. Donc ce n'est pas qu'une question d'humeur, c'est aussi une question d'ambiance, de lieu.
Je disais humeur au sens large.
Oui, mais enfin, je veux dire, c'est aussi de situation. Et peut-être que Echnoz, c'est ça dont il parle, c'est des situations. Oui. Mais juste une petite question par rapport à la narration. Enfin, déjà, moi, je vais relire Envoyé spécial que je n'avais pas beaucoup aimé. Ouais. Donc je vais le relire avec vos interprétations. Mais quand vous parlez de narration inclusive, je voulais juste demander si, par exemple, Saramago, l'auteur portugais, je trouve qu'il fait plein de narrations inclusives. Enfin, bon, vraiment, tous ses textes, c'est avec ça. Et comme vous parlez que de Diderot ou de Rabelais, je voulais juste vous poser la question si vous pensiez que Saramago fait aussi partie de cette...
Excellente remarque, tout à fait. C'est un courant, tout à fait. Tout à fait.
On est resté dans le domaine franco-français.
Tout à fait. Et d'ailleurs, je vais y revenir parce que c'est l'exemple de Saramago. Ah oui. L'exemple de Saramago est instructif parce que il opte absolument pour à l'encontre de ce qu'on a pu dire de ce type de posture humoristique. Il opte pour une connivence profonde entre une posture critique et un désir fictionnel. Là, je m'inscris en faux contre tout ce qui a été dit depuis la critique, depuis cette fameuse leçon de Foucault au Collège de France, le XXe siècle est un siècle ironique, tout est critique, etc., etc. Je m'inscris en faux contre cette perspective foncièrement déconstructionniste et nihiliste d'une certaine littérature, et sur le fait que ce type de posture serait nécessairement contraire à la naïveté de la fiction. Je n'y crois pas, je m'expliquerai dans un instant. Mais ça, et Saramago en est un bon exemple, justement. D'autres questions? Monsieur.
Bon, pardon, c'est vraiment pour meubler, parce qu'il y a très peu de questions. Mais moi, il me semble, Envoyé spécial m'a extrêmement, non pas du tout déconcerté, mais un peu inquiété, je dois dire. Parce que, bon, voilà, après, il y a eu quand même ces cinq livres, parce qu'il faut compter Jérôme Lindon aussi, qui est, même s'il a un statut à part. Mais donc Ravel, Courir des éclairs, 14. Et franchement, depuis pas mal d'années, je me demandais ce que Echnoz allait produire après. Et là, il sort ce livre, Envoyé spécial, qui à mon sens, reprend à la fois la veine qui était, disons, sa première veine avec parodie de romans d'espionnage, etc. Mais j'ai l'impression qu'il en fait aussi, alors à la fois une sorte de festival où il revient sur ses premières amours, et en même temps une auto-parodie lui-même. Oui, il y a plein d'événements. Alors, je n'étais pas là tout à l'heure au début, au moment de parler d'envoyé spécial. Mais il y a plein d'éléments. Alors, vous avez rappelé à un moment, c'est dans... dans Cherokee, oui, où il dit vous êtes Paul, vous vous baladez dans la pièce. Il y a exactement ce même procédé, mais avec, mes souvenirs ne sont pas très précis des deux textes, mais avec une inversion, enfin, une nuance à chaque fois. Et donc, il reprend plein d'éléments. Donc, ce qui m'inquiète un peu, c'est qu'est-ce qu'il va faire ensuite, quoi. Voilà.
Voilà, non, mais
et
il
ça,
était,
aucun de vous ne saura y répondre.
Pour l'instant, il m'a dit l'autre jour, je cherche, mais bon, non, qu'il y ait une dimension d'autopastiche, plutôt que de parodie. Hein.
Oui, non, ce qui me rassure, moi, paradoxalement, c'est exactement ce que vous venez de dire. Ouais. Ça vous inquiète, ça me rassure, pourquoi? Parce qu'on avait déjà, en quelque sorte, embaumé ou panthéonisé Jean Echenoz. L'histoire littéraire est une grande récupératrice et une grande émasculatrice aussi. On avait dit, voilà, Echenoz a commencé par des parodies de genre mineur, et puis devenu un écrivain adulte, je force la caricature, mais devenu un écrivain adulte, il délaisse ce jeu sur les formes mineures de la paralittérature pour aborder des récits donc bio-fictionnels qui, eux, sont plus denses, à la fois sur un plan formel et sur un plan, enfin, dans l'expression de cette mélancolie qui est présente. Et puis, il y a eu 14, qui est le dernier à ce jour des grands romans sur la Première Guerre mondiale, un siècle après. Il y avait comme cela une espèce de montée en grâce de l'écrivain Echenoz, comme si finalement on relativisait la portée de ses premiers romans et que l'on en faisait des exercices, enfin des gammes, quoi, comme s'il s'était entraîné. Et là, avec ce dernier roman, avec Envoyé spécial, il retravaille ses premières amours, c'est-à-dire qu'il nous montre que son parcours, il est loin d'être achevé, qu'il y aura peut-être des tours, des détours, des retours et des propulsions, voilà, des propulsions vers d'autres formes. Et je trouve ça rassurant sur l'avenir de cet écrivain.
Il ne faut pas oublier non plus que dans sa carrière, il y a un petit livre auquel on n'a prêté aucune attention, qui est Caprice de la reine. Et dans Caprice de la Reine,
paru juste avant, d'ailleurs.
Et voilà, dans Caprice de la Reine, il réunit des petites nouvelles dont certaines, on ne croirait absolument pas que c'est du Jean Echenoz, qui sont des essais stylistiques aux antipodes de la manière que nous connaissons de lui. Alors, il y a une nouvelle remarquable, si vous ne la connaissez pas, je vous engage à la lire, qui s'appelle Génie civil, qui est un petit peu le condensé, effectivement, de toute la topique de Jean Echenoz, c'est-à-dire les voyages qui tournent en rond, le désespoir, l'ironie du sort, puisqu'il va rencontrer une femme qui meurt.
Le pont qui s'écroule.
Voilà, etc. etc. Donc, il y a bien du Echenoz, mais vous verrez que l'éventail des 8 nouvelles est vraiment très étonnant. C'est la preuve que c'est quelqu'un, familièrement parlant, qui a plus d'une corde à son arc. Et il peut encore nous réserver des surprises, incontestablement. Incontestablement. Mais alors oui, pour l'autopastiche, je suis tout à fait d'accord. Ce qui montre, comme disait Bruno à l'instant, le degré, au fond, de perfectionnement auquel il a pu arriver. D'autres questions ? Alors, je serais tenté d'ajouter un... Oui, madame, je vous en prie. Oui, je vous en prie, je vous en prie.
Est-ce que vous voulez dire qu'il se pastiche lui-même dans un voyage spécial? C'est ça que vous voulez dire un peu? Enfin, qu'il englobe tout et qu'il refait comme une nouvelle mouture de tout ce qu'il a fait pour un peu faire l'auto-parodie?
Il exagère un peu les pro.
Oui, je pense qu'il y a une dimension essentielle chez Echenoz, quand même pas au sens le plus profond du terme, on va en reparler, c'est celle du jeu. Et je pense que dans Envoyé spécial, il joue, mais il joue aussi de lui-même. Alors, ça, incontestablement.
Oui, c'est un peu abyssal. C'est-à-dire qu'il revient à une de ses passions d'écrivain, qui est la parodie des genres établis. L'au-delà de la parodie qui est aussi faire sens depuis cette parodie, dire quelque chose en gros du monde d'aujourd'hui et de l'être au monde d'aujourd'hui depuis la parodie de genre mineur. Ça c'est par là qu'il a démarré en littérature, et là forcément comme il reprend cette veine là le temps d'un livre ou deux, je ne sais pas, je ne suis pas dans les secrets de son secrétaire et de son bureau, mais nécessairement il s'inclut lui-même à l'intérieur de ce travail sur les formes, puisqu'il a déjà, il y a 25-30 ans, accompli ce type de réalisation. Donc, nécessairement, ça n'est plus simplement la parodie du genre policier, mais c'est aussi la parodie des formes dans le roman contemporain qui parodie les formes mineures, une espèce comme cela de mise en abîme.
Oui, c'est abyssal.
C'est abyssal.
Un jeu de miroir qui est très
Et en même temps, il ne se prive pas de reprendre à son compte tout ce qui fonctionne en termes de réaction de lecture dans ces genres supposés mineurs.
Ah, oui, oui.
L'histoire qu'on raconte, le côté aussi le côté presque Frédéric Dard par moment.
Oui, exactement.
La volontaire épaisseur du comique, le farcesque de l'écriture dans la manière d'appréhender par exemple la scène amoureuse avec la perceuse du voisin qui vient rompre
vous allez trouver qu'il y a un peu trop de perceuse comme il dit à mon
c'est des choses énormes, mais ça joue à plusieurs niveaux, et en même temps parce que ça joue à plusieurs niveaux de parodie, ça décrasse un peu tout ça.
Ouais.
Finalement, la question qu'il pose, c'est est-ce qu'on peut encore tirer un certain nombre d'effets sur le plan de la représentation, donc sur un plan purement esthétique, mais peut-être aussi sur le plan du sens, du contenu, est-ce qu'on peut encore tirer un certain nombre d'effets de ces formes romanesques tellement usées, tellement répétées, est-ce qu'elles sont vraiment devenues creuses et qu'il faut cesser avec elles, ou est-ce qu'on peut leur redonner une nouvelle légitimité?
Voilà. Leur réinsuffler. Une question de madame, en haut. Je reviendrai. Après, on va faire des billets d'ordre.
Oui, bonjour. Alors, je suis arrivée il n'y a pas longtemps, je suis peut-être des redites. Moi, ça me faisait penser un petit peu à beaucoup de clins d'œil, les clins d'œil des faux monnayeurs, avec une dimension spéculaire et quelque chose d'abyssal et de vertigineux, avec l'écrivain qui se regarde et puis qui vous emmène le lecteur, et je vous balade un peu où je veux. Et puis, j'ai repensé aussi à des belles explications d'il y a une trentaine d'années qu'on avait pu avoir. J'ai vu du Queneau, j'ai vu du Pérec, j'ai vu Michaud Plume avec Loutosque, qu'on n'a absolument rien à faire de cette pauvre femme qu'on a emmenée. Donc moi j'ai vu des clins d'œil partout là aussi, et puis effectivement une réflexion sur les modes narratifs, mais l'écrivain à sa place, et toi lecteur aussi, où tu te positionnes. Mais bon, c'est des vieilles questions, même Madame de Lafayette se posait des questions sur son propre roman, donc je veux dire, on tourne en rond quoi, mais avec plaisir.
Les mêmes problèmes se retrouvent, oui tout à fait. Bon, le modèle gidien, de toute façon, qui peut en faire l'économie au XXe siècle, bien qu'il y ait un monde, des années-lumière, entre l'imaginaire gidien et celui d'Echnoz. Bon. Alors, Gide, lui, est plutôt un ironique, ce que n'est pas fondamentalement. On va peut-être y revenir. Monsieur avait une question à poser, Caroline.
J'arrive. C'est enregistré, en fait, je vous demanderai d'attendre le. Merci.
Non, c'était juste une petite remarque. Moi, je n'ai pas lu tout Echnoz, j'ai lu quelques romans de lui, et c'est vrai qu'il y a cette mise en abîme vertigineuse, enfin, cette mise en abîme vertigineuse en particulier dans le dernier roman. La question que je me pose finalement, parce que Épour et Torne, ça tourne quand même, c'est tout de même, c'est qu'est-ce qui est mis sous tension par Echnoz, qui fait qu'il reste. On peut le ramener à la parodie, une parodie de la parodie, une déconstruction de la déconstruction, enfin on n'en finit pas. Mais pour arriver à quelque chose qui est quand même de l'ordre du, je dirais pas du sérieux, mais de quelque chose, il y a un enjeu. Un enjeu, et qu'est-ce qu'il met, qu'est-ce qui est vraiment mis sous tension, qui fait qu'on s'accroche à ce qu'il écrit, qu'on est intéressé par ce qu'il est écrit, c'est pas un jeu gratuit. C'est-à-dire que les critiques qu'on a entendues, là, souvent entendues sur le dernier roman, c'est que c'était un peu gratuit, c'est un mécano. Mais en même temps, au-delà de ce mécano, il y a Il y a là, vous avez parlé d'une figure de style qui m'échappe maintenant, dont le nom m'échappe maintenant, qui est très intéressante. Mais finalement, l'ironie d'Eschnoz, c'est qu'il parle de cordes dans la maison du pendu, Eschnoz. Et ses romans résonnent. Il y a une résonance chez Eschnoz qui est très intéressante. Et cette résonance, elle est, c'est comme ça. Il me donne le sentiment, celui que mine de rien, il parle de cordes dans la maison des pendus.
Oui, oui. Je ne sais pas si quelqu'un a une réponse. Qu'est-ce que c'est qui nous accroche chez Eschnoz comme ça ? La question est difficile. Bon, j'ai une question très simple qui fait écho d'ailleurs à ce qui a pu être dit tout à l'heure. Peut-être parce que c'est un texte que j'ai relu récemment, j'avais oublié à quel point il était profond. C'est un texte de Freud qui se trouve dans l'inquiétante étrangeté et autres essais. Et c'est l'article qui s'appelle « Le créateur littéraire et la fantaisie ». Et il dit très bien, Freud, et je crois qu'on devrait y penser plus souvent, hein, que tout créateur, finalement, a sa force dans le fait que tout en étant adulte, il a la possibilité de recréer le jeu qu'il a fait vivre enfant. Et je pense que la séduction de quelqu'un comme Eschnoz, c'est qu'il nous offre précisément, alors que nous savons que c'est une imitation qui n'est pas... qui est très, très profonde, il nous offre la possibilité de jouer exactement comme si nous étions des enfants, mais avec une intelligence d'adulte. Et je crois que le secret des très, très grands écrivains est là. Et alors, justement, avant d'autres questions éventuellement, je voudrais revenir sur un point. Là, je vais un peu plaider pour mon église, mais je réponds à une incitation d'Emmanuel. J'aurais dû intervenir ce soir, j'aurais dû intervenir sur la notion de métalepse. Bon, il en a été question et je ne voulais pas... couper le débat. Je vous signale que je vais donner une forme de masterclass, on appelle ça, le 14 février, à la bibliothèque, sur les figures de style. Et j'en parlerai de la métalepse. Mais alors, justement, je voudrais dire, hein, bon, juste en deux mots, on en a parlé tout à l'heure avec Agnès, avec Bruno, et ça fait partie du charme d'Eschnoz, n'est-ce pas, bon. Il y a une formule qui me frappe chez Eschnoz. Il a dit dans plusieurs entretiens, il a une formule qui est très surprenante, surtout... Oui, mais alors, il faut que je choisisse entre la lumière et le micro. J'y vois plus. Je sens que je vais sortir mon colt. Je vais descendre. Il dit dans plusieurs entretiens, en insistant beaucoup, il parle, pour un auteur contemporain, c'est quand même étrange, Bruno, et ce que vous disiez justement de l'interrogation sur le pouvoir des recettes romanesques à l'instant. Il parle sans arrêt, il dit sans arrêt, mon désir de fiction. Il part de son désir de fiction. Et un désir de fiction, ça suppose, si grande soit l'intelligence critique qu'on a, un quotient, une part de naïveté. Il n'y a pas de grand créateur sans foi. Il n'y a pas de grand lecteur de romans sans foi, même s'il est en même temps critique. Alors c'est pour ça que la figure de la métalepse, telle qu'on vous l'a rappelée, hein, qui est la possibilité d'enjamber du niveau de la narration vers le contenu de ce qui est narré. On a fait de cette métalepse une machine de guerre, hein, contre la fiction, un signe de la modernité qui serait nécessairement incompatible avec la fiction. Or, je n'y crois pas. Hein. Je n'y crois pas. Je crois au contraire que cette métalepse est quelque chose qui sert la fiction au lieu de la détruire. Alors, elle peut la servir de manière beaucoup plus poétique, comme chez Giono. Elle peut la servir de manière beaucoup plus bouffonne, beaucoup plus drôle, comme chez Eschnoz, mais elle la sert. Hein. Alors, j'ai toujours été frappé, bon, rapidement, chez Giono, vous pouvez le lire aussi parallèlement à Eschnoz, il y a un très grand livre de Giono qui s'appelle « Noé », où Giono raconte sa jeunesse du roi sans divertissement. Et il dit que dans son bureau, pendant qu'il écrivait « Un roi sans divertissement », venaient se superposer au lieu réel les lieux imaginaires du roman. Alors, bien sûr, il peut passer de l'un à l'autre, on dit métalepse, etc., etc. Mais Giono dit à un moment, il y avait les éléments réels et les irréels, point, les uns et les autres, et il continue. S'il avait voulu vraiment distinguer entre le réel et l'irréel, il n'aurait pas dit les uns et les autres, il aurait dit ceci et cela, ou les premiers et les derniers. Il dit les uns et les autres. Lorsque vous employez les uns et les autres, qui est grammaticalement ce qu'on appelle un distributif, eh bien les uns peuvent renvoyer aussi bien au réel qu'aux irréels, et les autres, pareil. Autrement dit, c'est la preuve que ce que cherchent les romanciers quand ils pratiquent la métalepse, c'est une forme de suspension de la différence entre ce qui est fictionnel et ce qui n'est pas fictionnel. Alors, la raison nous dit ça, c'est la fiction, ça, c'est la réalité. C'est ça qu'ils cherchent. Et ils la cherchent pourquoi ? Parce que si vous opposez sans arrêt la fiction et la réalité, bien forcément, la fiction dure un moment, la réalité durera toujours, la fiction, elle est battue. Si vous arrivez à estomper la différence, bien évidemment, hein, la fiction sort grandie. Alors, pensez-y, dans la publicité, ça se voit, pas besoin d'aller dans les grands romans, dans les clips publicitaires, j'ai à l'esprit ce clip étonnant où on voit un garçon et une fille dans un abribus, et sur une affiche, il y a une voiture. Que fait le garçon, hein ? Eh bien, il enjambe la paroi de l'abribus et il monte dans la voiture qui est sur l'affiche. Mais vous voyez ce que ça veut dire ? Ça veut dire que vos désirs sont réalisables et qu'en réalité, vous pouvez pénétrer directement dans ce qui n'est pas la réalité, qui est pure fiction, puisque c'est une image. Mmh. Eh bien, le romancier, il fait pareil. Il veut vous faire rentrer de plein pied dans ce qui est purement fictionnel en supprimant la différence entre les deux. Et c'est là que vous retrouvez l'analyse de Freud. Finalement, vous êtes en quelque sorte, tout en ayant la conscience d'un adulte, on vous invite à un jeu d'enfant. C'est pour ça, et Bruno l'a très bien montré ce matin, Florence en a très bien parlé tout à l'heure, qu'il y a cette dimension essentiellement ludique dans le discours du roman chez Eschenoz, qui a ses jeux avec les conventions du roman, le narrateur, le lecteur, etc. Parce qu'il faut que tout cela crée un univers authentiquement fictionnel, mais qui a autant de poids que le reste. Et on peut passer facilement de l'un à l'autre sans aucune différence. Donc, le terme d'ironie, si tu veux, au sens de distance vraiment négative et nihiliste, chez Eschenoz, je ne le sens pas. En revanche, je sens l'humour, hein, l'humour qui est une façon justement de faire semblant d'y croire alors qu'on n'y croit pas. Tu vois, c'est une forme de naïveté jouée, hein, l'humour qui colle magnifiquement avec l'humeur des Eschenoz. Voilà, en tout cas, cette figure de métalepse, il faudrait impérativement la revisiter. Bon, pour la conférence du 14, je donnerai des exemples, hein, qui montrent très bien comment s'y prend Eschenoz. Il faut la revisiter. Hein. Même les gens qui ont dit, par exemple, de Giono, les fameux colloques qu'il y avait eu sur la métalepse à l'université de Tours, là, bon, même des gens qui ont dit qu'il y avait avec la métalepse une immersion fictionnelle, mais c'est un contresens, parce que si vous dites que c'est une immersion fictionnelle, vous continuez à présupposer qu'il y a une fiction reconnaissable comme telle. Or, ils cherchent tous à brouiller la frontière entre les deux. Tous.
Le meilleur épigraphe de Noé, c'est Noé, un roman où le romancier s'appelle Jean Giono, où sa fille s'appelle Sylvie, où il habite à Manosque, etc. Ouais. Et l'épigraphe, c'est tout est faux, même oui. Moi, même mes amis, oui, même oui, ma oui. Vie.
Il inverse les choses. Il inverse voilà. Les choses. Mmh. Oui, alors Giono, c'est sur le mode, effectivement, plus poétique. Eschenoz, hein. C'est sur un mode qui est beaucoup plus fantaisiste, plus ludique, hein, et plus humoristique. Mais fondamentalement, la logique est celle-là. Hein. Bon, quand vous voyez dans La Rose pourpre du Caire, le séducteur, sortir de l'écran et venir vers Jane Keaton, bon, on n'a pas l'impression que c'est un artifice. Hein. C'est merveilleux, vous rendez compte. Elle voit le jeune premier qui vient l'embrasser en plein milieu de la salle du cinéma. C'est formidable. Il faut y croire. Mon désir de fiction. Donc il faut que la fiction touche même jusqu'à ses procédés et qu'il soit crédible. C'est ça qui est tout à fait étonnant. Et je me demande si la réponse à votre question n'est pas là. Il y a une forme de, littéralement en parlant, de double jeu, ces grands écrivains qui nous permettent d'être enfants avec la conscience et l'intelligence de l'adulte. Et c'est ce jeu qui est très étonnant. Enfin, il me semble. C'est un problème est ouvert.
Je pense qu'on va s'arrêter là.
Oui,
il est l'heure. Il me revient de remercier très chaleureusement tous les intervenants d'aujourd'hui. Donc, dans une première partie, Bruno Blankmann, Stéphane Chaudier, Anaïs Castiglione et bien entendu Gérard Berthomieux. Je vous laisse les applaudir. Florence Le Camercier et Christelle Reggiani. Ça y est, ouf. Je vous précise que la séance d'aujourd'hui a été captée. Vous la retrouverez sur le site de la bibliothèque grâce à nos techniciens que je remercie. Donc ouais. Je vous invite à revenir le 5 février. Les premières années du conservatoire donneront des lectures de Courir, Envoyé spécial et Lac Donc vous pourrez entendre en mots par ses élèves comédiens, voilà, des romans qu'on a évoqués ici. Et Gérard, donc ce sera ici lundi 5 février à 19h. Et Gérard en parlait. Gérard donnera une masterclass le 14 février, un mercredi, à 18h. Et là, ce sera dans la bibliothèque, juste à côté de l'exposition. Comme ça, ensuite, vous pourrez venir la voir, puisque nous vous y invitons, bien sûr, chaleureusement. Cette exposition est là jusqu'au 5 mars. Encore merci pour cette merveilleuse après-midi et à très bientôt. Au revoir. Thank you.